Vous écoutez RTL.
RTL Soir, Bernard Poirette.
Et avec Isabelle Choquet, bien sûr, pour la première édition de RTL Soir. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Bienvenue donc dans RTL Soir. Ce RTL Soir est dominé par une question. Quel impact de l'attentat d'hier soir aux Champs-Élysées sur le premier tour présidentiel? On va essayer d'y répondre d'ici 20h. Donc la première édition, c'est avec vous Isabelle.
La campagne du premier tour plombée par les affaires se termine complètement envenimée par le terrorisme. Après l'attentat d'hier sur les Champs-Élysées, François Fillon et Marine Le Pen dégainent l'arsenal sécuritaire et anti immigration. Bernard Cazeneuve accuse la candidate du FN d'instrumentaliser l'attentat. Un attentat qui garde encore plusieurs zones d'ombre. L'auteur a été abattu. Un message pro-Daesh a été retrouvé près de son corps. Mais la revendication de l'État islamique parle d'un autre homme. Cette attaque endeuille une nouvelle fois la police. Un gardien de la paix de 37 ans a été tué. Xavier Jugelet devait entrer le mois prochain dans la PJ. Il était présent au concert de réouverture du Bataclan car il pensait que la vie est plus forte que le terrorisme. La plupart des candidats ont bousculé leur agenda. Les déplacements sur le terrain ont été annulés. Repli général sur Facebook. Et puis comme chaque jour, vous avez rendez-vous avec notre décodeur écho, décryptage du programme sécurité des candidats. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi ce vaste incendie dans le Médoc. 900 hectares sont partis en fumée depuis hier. Et puis le foot. Monaco va retrouver la Juve en demi-finale de la Ligue des Champions. L'OL affrontera l'Ajax Amsterdam en Ligue Europe. La Bourse de Paris, elle termine en repli de 0,37% à 5159 points.
À 18h20, donc, pour essayer de jauger les conséquences possibles sur le premier tour de l'attentat d'hier à Paris, nous recevrons le sociologue Gérard Mermet du cabinet Francoscopie. Juste auparavant, dans la question de l'actualité avec le Parisien Magazine, nous aurons revisité un autre scrutin présidentiel tout à fait hors norme, celui du 21 avril 2002, qui a vu, vous vous en souvenez, accéder Jean-Marie Le Pen au second tour. En fin de première demi-heure, dernier volet des coulisses de l'actualité à Donzy, le village de Bourgogne, qui vote, comme on dit, comme la France. Avec Alain Duhamel à 18h30, le bilan de cette campagne politique 2017, à bien des égards tout à fait inédite. Et puis toute autre chose, avec notre deuxième invité, juste après Alain. Il s'appelle Arthur Guérin-Boëri, il a 32 ans. Il est champion du monde d'apnée dynamique, c'est-à-dire en mouvement, avec ou sans palme. Le bien-être sous l'eau, affirme-t-il dans un livre qui vient de sortir aux éditions Genèse. 18h50, RTL Monde, ce soir en Chine et en Argentine, et de 19h15 à 20h, bien sûr, je vais refaire le monde avec les polémistes. Et puis il y a vous, Patricia Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Demain, moins de gelée, mais des nuages sur la moitié nord.
Oui, nous aurons encore quelques températures négatives, mais ces températures négatives seront surtout localisées sur le centre-est du pays, avec par exemple moins 2 degrés à Clermont-Ferrand, 0 degré à Limoges, 1 degré à Orléans, 2 degrés à Rennes et à Montélimar, 10 degrés à Toulon. Dans l'après-midi, température très contrastée. Ce sera encore un petit peu frais sur la moitié nord du pays avec 13 à Lille, 16 à Cherbourg, 17 à Paris, mais les températures seront vraiment très agréables dans le sud avec des pointes à 25 degrés dans le sud-ouest. Côté ciel, eh bien, ce sera du plein soleil sur la moitié sud et sur la côte atlantique. Ce sera plus nuageux sur la moitié nord avec quelques averses en matinée près des frontières du nord et dans l'après-midi entre les Hauts-de-France et le nord-est.
Merci Patricia.
RTL,
le journal de la présidentielle.
Dans 5h57 exactement, la campagne du premier tour présidentiel sera close et les dernières heures sont empoisonnées par l'attentat commis hier soir à Paris.
Attentat sur les Champs-Élysées, un homme seul a tué un policier et en a blessé deux autres avant d'être abattu lui-même par les tirs de riposte. On va revenir dans un instant sur l'enquête et la revendication de cet attentat. La plupart des candidats se sont exprimés sur cette attaque et pas seulement pour condamner. François Fillon a promis d'emprisonner tous les fichés S. Marine Le Pen veut les expulser et fermer les frontières. Elle accuse la droite et la gauche d'avoir tout fait pour que nous perdions la guerre contre le terrorisme. Indignation du Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Alors que l'heure est à la dignité, à l'unité, certains candidats à l'élection présidentielle ont fait ce matin le choix de l'outrance et de la division. Il faut rétablir la vérité. Je veux rappeler à Marine Le Pen qu'en matière de lutte contre le terrorisme, la facilité n'est pas la fermeté, ni l'outrance, le gage de l'efficacité. Mesdames et messieurs, ses propos, plus que tout autre, révèlent son véritable objectif. La candidate du Front National cherche, comme après chaque drame, à profiter et à instrumentaliser pour diviser. Elle cherche à exploiter sans vergogne la peur et l'émotion à des fins exclusivement politiciennes.
Le Premier ministre Bernard Cazeneuve au micro RTL de Vincent de Rosier. Voici ce que lui répond Nicolas Bay, le secrétaire général du FN.
Non, nous instrumentalisons rien du tout. Par contre, nous faisons le constat que la France est ensanglantée à intervalles réguliers et que finalement, on a un gouvernement qui ne fait rien. L'attitude de Bernard Cazeneuve est à proprement parler indécente. Il a été ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre depuis quelques mois. Il porte une écrasante responsabilité dans un islamisme radical et un terrorisme contre lesquels il n'a pas pris les mesures absolument indispensables pour tenter de masquer en tout cas son inaptitude totale à protéger les Français. Eh bien, il attaque Marine Le Pen.
Et dans un message sur Facebook, Jean-Luc Mélenchon appelle ses concurrents à respecter leur devoir de sang-froid, à éviter les polémiques grossières et vulgaires et à ne pas accuser le gouvernement actuel.
Comme convenu, arrêtons-nous sur l'enquête, bien sûr, ouverte après l'attentat d'hier soir à 21h aux Champs-Élysées. Il y a ce soir de nouveaux éléments.
Et on va faire un point complet avec vous, Olivier Bois, bonsoir.
Bonsoir.
L'attentat des Champs-Élysées a été très vite revendiqué par l'État islamique, trop vite peut-être, et par ailleurs, un petit message manuscrit favorable à Daesh a été retrouvé près du corps du terroriste Karim Chorfi.
Oui, il a quand même tenu à signer son attaque avec cette note écrite à la main, retrouvée à côté de son corps. Note favorable à l'État islamique. Retrouvée également dans la voiture un Coran, l'adresse d'un commissariat à côté de chez lui en Seine-et-Marne et l'adresse de la DGSI, les services de renseignement français, cible désignée traditionnellement par Daesh.
Ah, malgré tout, la revendication de l'État islamique pose question. L'organisation fournit le nom d'un djihadiste, mais ce n'est pas l'homme abattu hier soir.
Non, à première vue, aucun lien. Le terroriste de la revendication de Daesh s'appelle Youssouf al-Belgiki, c'est-à-dire le Belge. Or, le terroriste d'hier s'appelle Karim et il n'a rien à voir avec la Belgique. Évidemment, ça pose la question de savoir si Daesh a fait une confusion et s'attendait à un autre assaillant hier soir, ce qui est l'hypothèse la plus inquiétante, puisque cela voudrait dire qu'un homme dangereux est aujourd'hui dans la nature. L'autre hypothèse, c'est que Daesh n'a pas fait attention. El-Belgiki est un alias de guerre qui est régulièrement utilisé pour les djihadistes européens. C'est peut-être le cas pour Karim Chorfi.
Arrêtons-nous maintenant sur le profil de cet homme. Karim Chorfi, c'est un Français, il a 39 ans et son parcours n'est pas vraiment celui du parfait djihadiste.
Non, on a plutôt affaire à un profil psychiatrique très solitaire, très renfermé, capable d'ultra-violence et surtout obsédé par sa haine de la police. Il a été condamné à 15 ans de prison pour tentative d'assassinat d'un policier en 2001. Sur une autre affaire en 2013, à sa sortie de prison, il refuse de s'arrêter à un contrôle en mettant en danger à nouveau la vie des policiers. C'est un homme qui n'a jamais été signalé pour sa radicalisation, ce que confirme d'ailleurs les voisins qu'on a pu interroger.
Sauf que tout de même, depuis deux mois, cet homme était dans le viseur des services de renseignement.
Oui, et toujours à cause de cette haine de la police, des proches signalent fin février qu'il répète encore une fois vouloir s'en prendre à eux. C'est d'abord la police judiciaire locale qui va se charger de l'interroger. Il est relâché parce qu'il n'y a alors aucun élément concret hormis les mots qu'il prononce. Mais la justice antiterroriste estime quand même qu'il y a un risque et ouvre une enquête le concernant. On ne sait pas ensuite comment il a été pris en charge pendant les deux mois qui viennent de s'écouler par les services antiterroristes.
Merci pour toutes ces précisions, Olivier Bois du service police-justice d'RTL. Dès ce matin, François Hollande, Bernard Cazeneuve et le ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl, se sont rendus au chevet du policier le plus sérieusement blessé hier soir. Le chef de l'État a également fait un passage à la préfecture de police.
Et donc la police paye une nouvelle fois un très lourd tribut dans sa lutte contre le terrorisme.
Le policier assassiné au volant de son fourgon allait avoir 38 ans dans quelques jours. Ce gardien de la paix devait être muté le mois prochain à la PJ. Il venait d'ailleurs de faire son pot de départ. Xavier Jugelet était né à Bourges, mais toute sa famille habite du côté de Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Christian Panvert, vous êtes rendu sur place pour RTL.
Le père du policier, très digne, est sorti de son pavillon vers 16h15 pour accueillir le préfet du Loir-et-Cher. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Le maire de la commune, Jeannie Lorjoux, était là aussi à ses côtés.
Le papa de Xavier est mon voisin. Il est le président des médaillés militaires de Romorantin-Lanthenay. C'est l'ancien major de la base aérienne. C'est donc une famille de patriotes qui est touchée au cœur. Et nous sommes là autour d'eux pour leur dire notre amitié.
Monique, une voisine, est très choquée.
Je suis triste pour lui, puis pour sa femme.
Martine, une amie, est venue spontanément témoigner de sa sympathie.
Il m'a envoyé un message cette nuit. Et quand je l'ai lu ce matin, j'ai hurlé. Il dit, voilà, bon, avant que la preniez par les réseaux sociaux, je voulais vous dire que le policier tué hier, c'est mon fils, Xavier, mon fils aîné. Voir son enfant assassiné, je crois que ça donne l'envie de mourir, l'envie de vivre, je ne sais pas, je ne sais plus. On est perdu.
Elle avait échangé il y a quelques mois avec Xavier qui racontait être fier de faire partie des policiers venus en renfort après l'attaque contre le Bataclan.
Reportage de Christian Panvert à Romorantin dans le Loir-et-Cher pour RTL. On marque une pause dans le journal d'Isabelle Choquet et au-delà, une dernière journée de campagne, littéralement sans dessus dessous.
Il est 18h11, RTL Soir, Bernard Poiret et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Isabelle, cette campagne très insolite s'achève donc de manière inédite et dramatique aussi. Et du coup, les candidats ont bousculé tout leur programme.
Oui, cette dernière journée a dû être en partie improvisée. Bonsoir Olivier Bost.
Bonsoir.
Pour commencer, la plupart des déplacements ont été annulés.
Oui, Marine Le Pen devait se rendre aujourd'hui à la SPA de Montceau-les-Mines. François Fillon aurait dû faire une randonnée dans la vallée de Chamonix. Emmanuel Macron devait tenir ses derniers meetings à Rouen et à Arras. Eh bien, à la place, ces trois candidats ont fait dans la matinée des déclarations, chacun depuis leur QG de campagne, sur leur façon de voir la lutte contre le terrorisme. Dans la foulée, l'équipe de campagne de François Fillon lui avait proposé de se rendre dans un commissariat, mais le candidat a refusé pour ne pas être taxé de récupération. Une dernière petite pique en direction d'Emmanuel Macron, qui lui a remercié devant les caméras les policiers qui protègent son QG. Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Philippe Poutou ont de leur côté maintenu leur programme, leur dernier déplacement aux quatre coins de la France, tandis que Jean-Luc Mélenchon organise à Paris un grand apéro ce soir. Et dans cette journée particulière, la plupart des candidats ont aussi pris le temps d'enregistrer des messages vidéo pour convaincre les indécis, 2, 3 ou 4 minutes que leurs partisans pourront partager sur les réseaux sociaux tout le week-end avec leurs amis. Ils auront le droit, car à partir de ce soir minuit, ils n'ont plus le droit en revanche de s'exprimer, plus le droit de distribuer des tracts ou coller des affiches. Demain, les candidats en fait vont se reposer, ne rien faire pour la première fois depuis des semaines et des semaines.
Demandez le programme avec Olivier Bost du service politique de RTL.
Il est 18h13.
Dernier rendez-vous avec notre décodeur écho et ce soir, on s'intéresse au programme sécurité des candidats.
Avec vous, Martial Youb, bonsoir.
Bonsoir.
Combien de policiers, combien de gendarmes, quels moyens? Bon, quand on y regarde de près, qui met le plus d'argent dans la sécurité?
Eh bien, c'est assez étonnant parce que ce n'est pas celui qu'on croit. Il s'agit d'Emmanuel Macron. D'après l'Institut de l'entreprise qui a chiffré les programmes sécurité des candidats, Macron prévoit d'embaucher 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie sur les trois premières années de son mandat. Ça représente 535 millions par an, plus 200 millions d'équipements et de matériel. Mais le candidat d'En Marche ajoute aussi 26 700 adjoints de sécurité, la police de proximité, qui avait été tentée par Lionel Jospin et abandonnée ensuite faute de résultats. L'Institut Montaigne, cette fois, évalue ses embauches à un peu plus d'un milliard supplémentaire. Derrière Emmanuel Macron, c'est plus logique, vu son discours sécuritaire, c'est Marine Le Pen qui embauchera le plus de forces de l'ordre, 15 000 policiers et gendarmes, ce qui représente un investissement supérieur au milliard. Dernière surprise, François Fillon et Benoît Hamon présentent les mêmes objectifs d'embauche d'agents sur le quinquennat. Projet plus modeste que les autres avec 5000 postes. Jean-Luc Mélenchon lui engage 3000 policiers et gendarmes, mais il ajoute 5000 emplois administratifs et 2000 agents de la police scientifique, ce qui fait 10 000 en tout.
Un consensus, donc, on sanctuarise la sécurité. Est-ce que ce sont des investissements conséquents?
Grosso modo, on finit juste de corriger les coupes sombres du quinquennat Sarkozy. Entre 2007 et 2012, les effectifs de la police et de la gendarmerie ont fondu de plus de 9000 postes. Pendant le quinquennat de François Hollande, on a recommencé à embaucher, mais il manque encore 3000 postes. Ça veut dire qu'avec son programme de 5000 postes, François Fillon va mettre environ 3 ans à retrouver le niveau des effectifs que son gouvernement avait supprimé. À l'époque, c'est vrai, la menace était plus économique que sécuritaire.
Le dernier décodeur économique de cette campagne avec Martial Youb pour RTL.
En Gironde, plus de 300 pompiers sont toujours mobilisés contre le vaste incendie qui ravage le Médoc depuis hier. Il se situe à 55 km au nord de Bordeaux, sur 4 communes dont Saint-Laurent-Médoc. 900 hectares de forêt ont déjà été détruits. En tout, ce sont pas moins de 19 feux plus ou moins importants qui se sont déclarés dans la journée. En Allemagne, l'auteur de l'attentat contre le bus du Borussia Dortmund la semaine dernière est passé aux aveux. Aucun mobile terroriste, plutôt un mobile boursier. Le jeune homme avait spéculé sur une baisse de l'action du club. Le jour de l'attaque, il avait acheté l'équivalent de 15 000 options. L'opération aurait pu lui rapporter près de 4 millions d'euros.
On termine par le football. Isabelle, Monaco et Lyon connaissent désormais leurs adversaires dans les compétitions européennes.
On commence par la Ligue des Champions. Monaco échappe au Real et à l'Atlético. Pour le club de la Principauté, ce sont des retrouvailles. En demi-finale, les Monégasques vont affronter la Juve qui les avait éliminés en quart de finale en 2015, Jean-Michel Rascol.
Oui, pas un classico comme Real Atlético justement, mais un remake. La Juve de Zidane et Deschamps avait éliminé l'ASM à la fin des années 90. Ce fut le cas encore il y a 2 ans avec un seul petit but marqué sur les 2 matchs en quart de finale. Le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev.
Ça sera une revanche. Bien évidemment, Juve est maintenant encore plus fort qu'il y a 2 ans, mais Monaco aussi est plus fort qu'il y a 2 ans. C'est vrai, c'est vrai. Et j'espère cette fois-là, l'arbitrage sera correct. Mais Monaco ne se fixe pas des limites et notre force, c'est la jeunesse et le talent.
Il y a aussi la Ligue Europe. Et pour Lyon, tout semble possible. L'OL sera opposé à l'Ajax Amsterdam.
L'Ajax Amsterdam, un adversaire prestigieux, au palmarès un peu fané. Coup d'œil dans le rétro signé Bernard Lacombe, qui représentait l'OL ce matin.
Ma génération, c'était l'Ajax. C'était l'équipe de nos rêves avec les Cruyff, Kaiser, Niskens, tout ça. Et c'est un club qui est un petit peu à l'image de notre club, ou nous, vice-versa, parce qu'ils font beaucoup de formations, ils sortent beaucoup, beaucoup de jeunes. Et c'est à nous maintenant d'essayer d'être au niveau ce jour-là, comme on l'a été à Rome, comme nous l'avons été à Beşiktaş.
Notez que les matchs allés de Monaco face à la Juve et de Lyon à Amsterdam se disputeront le même jour, le 3 mai, 18h45 pour Lyon, 20h45 pour Monaco. Belle soirée foot, en concurrence, cela dit, avec le débat du deuxième tour de l'élection présidentielle.
Merci Jean-Michel Rascol.
Isabelle Choquet revient à 18h30 pour les titres de l'actualité de ce vendredi. À tout à l'heure.